Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous qui me rejoignez dans une nouvelle bulle d'histoire. Je suis aujourd'hui avec une autrice qui sort un album absolument fascinant, sous des dehors historiques. C'est un album qui parle évidemment de notre époque et de la place des femmes et de ce qu'on peut leur faire subir quand elles ont un tout petit peu de pouvoir. On va parler de tout ça. Je suis avec Anne Perrine Coët, qui a donc réalisé cet album Bathory, La Comtesse Maudite, publié par les éditions Stinkis. Bonjour Anne Perrine, je suis ravi de faire votre connaissance et de vous avoir dans cette bulle d'histoire.
Bonjour, ben merci, moi aussi je suis ravi.
Je commence toujours par ma question fétiche, ma question piège. Anne Perrine, c'est qui êtes-vous ?
Alors, je suis autrice de bande dessinée depuis quelques années. Avant ça, j'étais illustratrice et graphiste freelance depuis une dizaine d'années. Je vis à Bordeaux et je travaille aussi en parallèle à l'université à Bordeaux-Montaigne. Je donne des cours à la fac en art plastique. J'ai plusieurs casquettes.
Donc là, je suis avec la jeune femme qui est sous la casquette autrice de bande dessinée. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de cette fameuse comtesse Bathory et comment vous avez découvert cette histoire ?
Oui. Alors, Elisabeth Bathory, c'est une comtesse hongroise qui a vécu au XVIe siècle et qui, dans l'imaginaire collectif, est remémorée en tant que la comtesse sanglante ou la comtesse vampire, c'est-à-dire une femme qui aurait été une des plus grandes tueuses en série de l'histoire, qui aurait tué plus de 650 femmes, qui aurait pris des bains de sang, qui aurait... voulu garder sa jeunesse éternelle, etc. Ça, c'est la légende, en fait. C'est ce dont on se rappelle encore aujourd'hui. Et en fait, à l'époque, Bathory, c'était une des familles les plus puissantes en Hongrie et en Transylvanie, et qui exerçait un pouvoir qui était le sien, qui était issu de son rang, quoi. Elle a été accusée, jugée et condamnée pour des faits de torture sur des servants, sur des jeunes femmes. Et en fait, moi, je me suis intéressée à son histoire parce que j'ai toujours, à la base, été assez friande de films d'horreur et de littérature de genre et d'imaginaire. Et en fait, quand on s'intéresse au mythe du vampire, il y a son nom qui circule toujours un peu dans un coin. Parce qu'elle aurait soi-disant inspiré Dracula. Donc moi, je m'étais dit, tiens, il y a ce personnage qui existe. Et un jour, en cherchant sur Internet des informations, je tombe sur un très court article qui dit que c'est a priori un complot, quelque chose qui a été monté contre elle, que tout est faux, les accusations sont fausses. Et je me suis dit, mais c'est vrai que j'ai jamais questionné cette histoire, en fait. Pour moi, le fait d'avoir tué 650 personnes, ça me semblait tout à fait logique. Et en fait, je me suis dit, peut-être qu'effectivement c'est faux, et voyons voir ce qu'il y a derrière, et je me suis mise à faire des recherches dans ce sens.
Est-ce qu'il y a beaucoup de sources sur la vie de cette femme et des sources avérées ? Parce qu'on va parler évidemment du procès et et de la rumeur, mais est-ce qu'il y a beaucoup de sources qui permettent de raconter avec le plus de véracité possible cette histoire ?
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand elle a été condamnée, son nom et toutes ses affaires et toutes ses lettres, tous les objets qui étaient issus de ses propriétés, une grande partie ont été détruits parce que elle était devenue une espèce de blâme nationale, et donc il a fallu effacer les traces de son existence, quoi. Donc la plupart des éléments qui sont liés à Elisabeth Bathory, ça va être des correspondances ou des choses qui se retrouvent chez d'autres personnes avec lesquelles elle a pu entretenir des relations. Donc il y a des correspondances des lettres qu'on a pu retrouver dans la famille de son mari, quand lui partait et qu'il s'envoyait des courriers. Il y a des éléments qu'on retrouve à droite à gauche chez d'autres familles nobles. En termes de sources, en fait, il y a peu d'autres choses. Les comptes rendus du procès, si on en parle après, en fait, c'est aussi ça qui m'intéressait de mettre un peu en doute, parce que on voit que c'est pas forcément des sources crédibles. Les seuls éléments sur lesquels on peut vraiment s'appuyer, en fait, effectivement, ça va être des courriers, des correspondances qui existent et qui sont de sa main, quoi. Mais voilà.
Parce que dans votre album, il y a plusieurs thèmes qui surgissent, qui sont sous-jacents à toute cette histoire. La première, c'est le premier thème de cette histoire, c'est la sorcellerie. Donc, évidemment, on connaît le processus qui fait que les femmes sont accusées de sorcellerie, déjà beaucoup plus que les hommes, et souvent avec un destin assez funeste. Mais là, vous commencez cet album avec une comtesse enfant qui va apprendre un peu à utiliser les plantes, à utiliser les racines, à faire tout ce genre de choses, avec aussi une part de science populaire, on va dire, et aussi une part de fantasmagorie qui est liée à l'époque. Est-ce que les premiers pas de la légende arrivent avec cet apprentissage?
Alors, ça, c'est un angle qui, moi, m'intéressait parce qu'en fait, ce que j'avais retenu dans les recherches que j'avais pu faire, c'était que des nombreux objets ou outils qui avaient ensuite été vus comme des outils de torture qui auraient appartenu à Elisabeth Báthory ou à ses servants, etc. En fait, finalement, c'était très certainement plutôt des outils qui étaient utilisés pour pratiquer des soins médicaux. Il est fort probable. Encore une fois, c'est des choses qui ont été notées. C'est dû à des mouvements de population, etc. Mais il est fort probable qu'elle ait en fait dans certaines de ses propriétés ouvert ses châteaux pour accueillir des gens malades et pratiquer des soins en fait avec des guérisseurs, des guérisseuses. Et en fait, quand on regarde un petit peu à l'époque, les sciences dues à des guérisseurs, des guérisseuses, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas vraiment des médecins mais qui pratiquaient en fait la médecine avec des plantes, des outils ou des objets qui étaient plus ou moins archaïques. Il y avait des livres qui expliquaient que en fait quand les soins médicaux, plus ils étaient douloureux, plus ils étaient efficaces. J'ai lu pas mal de choses autour de ça sur les guérisseuses. Je me suis dit tiens, c'est intéressant parce qu'en fait étant donné la forte présence du magique dans l'esprit à cette époque-là, pas forcément, enfin il y a la religion mais il y a aussi toute cette toutes ces croyances en fait. C'est ça, qui était là et qui était présente dans l'esprit des gens et qui était mêlée à des pratiques en fait de médecine par des gens qui n'étaient pas des médecins. Je m'étais dit tiens, ce serait intéressant de montrer aussi à quel moment ça peut intervenir dans une existence, dans l'existence de quelqu'un comme ça, sachant que par exemple il est avéré certains empereurs, des Habsbourg étaient très très friands de magie, s'entouraient d'objets liés à des cabinets comme ça, occultes, etc. Donc en fait, c'est quelque chose qui était très présent à l'époque. Donc ça me semblait intéressant et important de le soulever aussi, quoi.
Alors ce qu'on comprend aussi dans le récit que vous faites de la vie de la comtesse, c'est que ces soucis, ces très gros soucis vont arriver à la mort de son mari. Je résume, mais c'est vraiment ça. Son mari, donc qui est un homme de guerre, qui est un puissant seigneur, cet homme va périr à la guerre et c'est elle qui va prendre le pouvoir. Et elle va prendre le pouvoir vraiment, elle va gérer les domaines, elle va gérer les impôts, elle va gérer de l'argent, elle va donner des ordres à des hommes quelquefois très puissants, et c'est vraiment là que la chose, la vie va basculer.
En fait, il y a ça, et il y a le fait que... Un élément qui m'a semblé intéressant et qui dit beaucoup de choses aussi, je trouve, sur le caractère d'Elisabeth Báthory, c'est-à-dire que même si on n'a pas énormément de sources, c'était quelqu'un qui était manifestement qui était assez fier de son rang, de sa famille, et il était en fait normalement quand un mari mourait ou quand une personne mourait, il y avait un temps de deuil à respecter avant de pouvoir reprendre effectivement les affaires, retravailler autour des domaines, etc. Et elle a refusé d'effectuer ce temps de deuil qui était d'un an. Elle a repris tout de suite en fait les commandes des choses. Et quelque chose qui m'a intéressé aussi, c'est que moi je m'étais demandé à ce moment-là, je m'étais dit mais en fait est-ce que c'est un cas unique à l'époque? Est-ce que le fait qu'elle ait autant de responsabilités et qu'elle puisse intervenir comme ça, c'est quelque chose d'un peu unique? En discutant avec le chercheur hongrois avec lequel j'ai eu la chance de travailler, Gabor Varconi, il m'expliquait que non, en fait, et qu'à cette époque-là, il y avait parmi des familles qui étaient très, très puissantes comme ça, quand il y avait un pouvoir partagé entre l'homme et la femme, en fait, dans le cas d'Elisabeth Báthory, le genre n'était pas une question ou un sujet, en fait. Il ne serait jamais venu à l'idée de quiconque de remettre en question son genre. C'était surtout son sang et son nom qui comptaient. Donc, de fait, elle bénéficiait d'une autorité et d'un pouvoir qui était dû à son nom, à sa famille. Et en fait, effectivement, quand son mari décède, elle devient plus fragile aux attaques qui lui sont faites, aux jalousies des autres nobles, parce qu'elle est extrêmement puissante, elle a extrêmement de domaines, en fait, elle en a plus que le palatin lui-même. Mais il y a un autre phénomène qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, comme c'est la guerre, il y a des histoires d'alliances et de pouvoir. Et son cousin à Elisabeth Báthory, qui s'appelle Gabriel Báthory, qui est prince de Transylvanie à cette époque-là, en fait, est en conflit ouvert avec l'Empire et menace de lever une armée avec les Ottomans pour s'allier avec une partie de la Hongrie, faire un grand soulèvement, etc. Et donc, elle, en fait, c'est une façon aussi, en accentuant l'attaque et la pression contre elle, ça va être une façon aussi de déstabiliser son cousin en disant voilà, on peut attaquer ta cousine, on peut attaquer ta famille. Et moi, je l'ai vu comme ça. En tout cas, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. C'est pas mal de choses mélangées en même temps, mais effectivement, elle devient plus fragile à ce moment en tant que veuve.
Oui, parce qu'il y a une pression politique, il y a aussi une pression religieuse qui est très forte, parce que je crois qu'elle n'est pas catholique, elle est protestante.
C'est ça, oui.
Donc, elle est quand même protestante dans un pays quand même très, très, très catholique, qui va devenir l'Autriche-Hongrie. En même temps, il y a la pression des Ottomans, des Turcs au sud, qui sont des musulmans. Il y a aussi ce contexte qui n'est pas très présent forcément dans votre album, mais qui est aussi sous-jacent.
C'est ça, oui, tout à fait.
Alors, il y a franchement un complot qui va se monter contre elle, un complot qui est à base de rumeurs, évidemment. Donc, vous avez parlé le fait qu'elle soit accusée de prendre des bains de sang. Mais avant de parler de ça, il y a aussi quelque chose d'important. Il y a aussi une forte connotation sexuelle. C'est-à-dire qu'elle a une amie et évidemment, il y a des rumeurs qui vont circuler à la fois peut-être sur de l'homosexualité féminine, mais aussi sur du plaisir sexuel féminin que tout le monde, soi-disant, entend dans le château. Et ça va être un peu la première attaque contre elle.
Vous parlez du personnage de Darvulia, j'imagine, c'est ça ?
Oui, c'est ça, tout à fait.
En fait, ce que dans la légende d'Elisabeth Báthory, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait, on a utilisé, comme on a le champ libre pour raconter un peu ce qu'on veut, puisque comme on n'a pas beaucoup de sources et qu'après, son histoire, elle a été vraiment beaucoup dévoyée, on est venu raconter un peu tout ce qu'on avait envie et augmenter au fur et à mesure aussi l'histoire. C'est-à-dire qu'en partant de telle chose, on vient ajouter telle chose et puis après, finalement, pourquoi pas aussi dire que si et ça et ça. Et il y a des ouvrages, par exemple, celui de Valentine Penrose qui est paru dans les années 60. Moi, j'étais assez marquée en le lisant parce que je me suis dit, mais tiens, en fait, moi, je cherchais des sources et je commence à le lire et je me dis, mais tiens, mais c'est très lyrique, c'est très, voilà, c'est vraiment une grande histoire qui racontait une grande légende. Mais il y avait des trucs où je me suis dit, mais tiens, on peut pas, enfin, à quel moment ça constitue une source crédible d'écrire ça? C'était du style, elle est très cruelle parce qu'elle est lesbienne et donc, comme on sait, les lesbiennes sont cruelles, etc. Je me suis dit, ah oui, d'accord, bon, c'est quand même particulier comme constat, quoi, d'en venir à des trucs comme ça. Alors qu'en fait, on n'en sait rien du tout, hein, qu'elle était lesbienne ou pas. Mais par contre, le personnage de Darvulia, il est intéressant parce qu'en fait, il est cité dans certaines correspondances qu'il y a entre les révérends, entre voilà, les gens qui entouraient Elisabeth Báthory à l'époque. Il y a son nom qui apparaît et dans le procès. Mais il y a des historiens qui mettent même en doute son existence parce que en fait, la traduction de son nom, c'est la contraction de deux mots. Alors là, en l'état, je n'ai pas mes notes avec moi, je ne serais pas capable de les ressortir, mais on peut retrouver la source dans le livre de Tony Thorne. Et donc, les historiens viennent même à douter de l'existence de ce personnage en disant, mais en fait, son nom, ça a l'air d'être une reconstitution de quelque chose, quoi. Et finalement, est-ce que si elle n'a pas existé, qu'est-ce que ça sous-entend aussi? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas un personnage qu'on aurait inventé pour aller dans le sens de, bah, d'augmenter les accusations envers Elisabeth Báthory, du style, il y a une femme qui est arrivée, qui était très cruelle, qui était une sorcière et qui a aidé Elisabeth Báthory à commettre tous ces meurtres. Et puis voilà, Elisabeth Báthory, elle la protégeait, elle était au petit soin avec elle, etc. Mais c'était vraiment une personne qui était une démoniaque et cruelle, etc. Et en fait, je me suis dit, tiens, c'est assez intéressant ça, parce que, étant donné qu'on peut même remettre en doute son existence, moi je me dis, je voulais l'utiliser comme une conteuse en fait, et comme un personnage par lequel va transiter l'histoire, c'est-à-dire finalement ça devient le prétexte à ce récit. Et c'est elle qui, à des moments, va faire ces petits éléments d'introduction de récit dans le récit, ou venir raconter des choses et donner cet éclairage-là, quoi. Effectivement, elle était vue d'Arvulia comme une espèce d'enchanteresse, et avec en tout cas une forme de, pas d'irrespect envers l'Église, mais quelqu'un qui était assez, en tout cas, assez libre, quoi. Et donc je me suis dit, bah, pourquoi pas aussi finalement réintroduire ces notions de, pas forcément de sexualité, mais en tout cas le mythe d'Elisabeth Báthory, il veut que soit une espèce de femme ultra sexualisée, un fantasme, la femme nue qui se baigne dans le sang, dans la baignoire et tout ça. Et moi, en fait, je me suis dit, bah, ça, je ne veux pas totalement l'occulter non plus, mais on peut en montrer un autre aspect, et pourquoi pas entourée de guérisseuses et avec des femmes qui s'intéressent au pouvoir du corps féminin, bah, on peut montrer d'autres choses, en fait.
Oui, d'ailleurs, dans votre album, la comtesse n'est pas du tout sexualisée, même sur son visage, c'est un visage... Ouais, presque enfantin, c'est ça aussi qui est intéressant.
Oui.
C'est que vous ne rentrez pas dans ce jeu-là, en fait.
Oui, j'avais envie d'essayer d'éviter ces aspects-là, et je vous avais dit ça tout à l'heure, ça m'a paru assez juste, mais sortie de son histoire, c'est-à-dire, c'est un personnage, mais c'est pas une héroïne. J'avais pas envie de faire un... J'avais pas envie de recréer une nouvelle histoire, de raconter derrière trop de choses qui viendraient, en fait, à nouveau tordre un peu le... Bah, ce qu'on sait, quoi, ou ce qu'on peut avoir comme élément de source.
Parce que dans la mesure où le fil rouge de votre album, c'est son procès, d'ailleurs le procès auquel elle n'assiste pas, hein, puisque la préparation du procès final auquel elle va évidemment être condamnée, mais en tout cas vous racontez comment la rumeur va se construire peu à peu, comment les gens vont venir raconter des trucs qu'ils ont entendus, ou on leur a raconté que, et finalement ils disent même à un moment donné, je sais pas si c'est les vraies minutes du procès, mais je n'ai assisté à rien, mais je peux vous confirmer que c'est vrai. Voilà, c'est vraiment le processus de la rumeur, et vraiment le...
Oui.
Quand on s'intéresse un peu à l'histoire des sorcières, c'est comme ça qu'on construit une sorcière et qu'on amène des gens au bûcher, finalement.
Oui, exactement. Mais j'ai lu aussi des choses sur la rumeur, sur l'histoire de la rumeur, comment elle naît, comment elle se diffuse, comment après elle échappe à tout contrôle, etc. C'était assez passionnant. Et c'est, en fait, oui, il y a certains éléments que j'ai réutilisés qui sont issus des comptes rendus des procès et qui sont les traductions littérales. Il y a beaucoup d'éléments dans l'album qui sont des traductions, en fait, soit de correspondances. Par exemple, la lettre du pasteur à la fin, c'est une traduction exacte de la lettre. D'ailleurs, je trouve ça, enfin, je trouve cette lettre toujours géniale. Je me dis, mais comment on peut écrire ça, c'est fou et tout. et les témoignages du procès, c'est aussi là, pour la plupart des traductions. Et en fait, c'est vrai que c'est incroyable de dire, moi, j'ai rien vu, rien entendu, enfin, rien entendu moi-même, mais on m'a dit que c'était vrai, donc c'est sûr, c'est vrai, quoi. Et c'est, ouais, c'est quand on commence à regarder ça, on se dit, mais en fait, comment c'est possible que ça ait pris cette tournure ensuite, et voilà, c'est ça qui est fascinant, quoi.
Oui, parce que l'histoire est un peu jouée d'avance, c'est aussi ça qu'on comprend très vite. Dans la mesure où vous l'avez extrait de son procès, on raconte son histoire en creux, c'est-à-dire que les choses sont tellement énormes qu'on ne peut pas y croire, en fait.
Mais il y a ça, elle n'a pas eu le droit d'assister à son procès, en fait, et ce que m'expliquait le chercheur, c'est qu'en fait, très probablement, en fait, toute manifestation qu'elle aurait pu émettre de mécontentement, de « je ne suis pas d'accord, je veux être là », etc., ça aurait pu être pris comme une forme d'accusation, un truc à charge, quoi. Donc, en fait, c'était profil bas, j'accepte la situation, je reste digne, surtout, et est cohérente avec mon rang et mon statut. Donc en fait, pas droit d'assister à son procès, ce sont ses servants qui ont été amenés au procès et qui ont subi plusieurs salves de torture avant d'être entendus. Donc en fait, et puis les comptes rendus du procès, ils ont par ailleurs ensuite été réécrits jusqu'à deux reprises. On voit qu'il y a des notes, des ajouts, des modifications. Donc en fait, en soi, qu'est-ce que ça dit de ce qui s'est vraiment passé? C'est très, très compliqué de croire ce qu'on peut dire, quoi. Cette façon de construire l'histoire en creux, c'est aussi lié effectivement au fait qu'elle était absente et qu'on a pu raconter derrière ce qu'on avait envie de raconter, quoi.
Il faut dire deux mots sur les servants et sur donc, les pseudo-témoins. Donc, ce sont des gens qui sont à son service. Il y a des femmes de chambre, il y a tout un tas de personnages. Et c'est finalement eux qui vont avoir le destin le plus funeste. Puisque la comtesse, on peut dévoiler, hein, l'histoire est connue, elle est condamnée à rester enfermée dans son château jusqu'à la fin de ses jours. Donc elle peut vivre quand même sur un train assez confortable, sa famille vient la voir. Mais tous ces les gens de maison, eux, ils vont être non seulement torturés, et on voit, il y a des petits détails dans les dessins, on voit qu'ils ont été torturés dans ce que vous montrez, ben, ils vont être exécutés à la fin.
Oui, et c'est pareil, un élément que j'ai trouvé assez marquant au fur et à mesure de mes lectures, c'est qu'en fait, la grande hiérarchie sociale qu'il y avait entre les nobles, les bourgeois et les gens de bas rang ou de rang inférieur, les servants, voilà, les gens qui travaillaient dans les châteaux, etc., en fait, elle était totalement assumée et c'était pas du tout... encore une fois, c'était quelque chose qui était tout à fait normal de maltraiter un servant, de le frapper. Il y avait une vraie violence, en fait, dans les rapports entre un maître et puis les gens qui l'accompagnaient. Donc, en fait, eux, ils ont été traités comme ça, mais moi, en tant que femme de voilà 2021-2022, évidemment ça me choque et ça me questionne, mais à l'époque c'était pas un sujet.
Une dernière question sur l'histoire, après on parlera du dessin, parce que c'est une bande dessinée, donc le dessin est important et en plus je trouve qu'il est vraiment vraiment remarquable dans votre album. Je disais tout à l'heure qu'il y a pas mal d'albums de manga ou en tout cas de bande dessinée qui ont été publiés sur la Comtesse Báthory. Ils sont tous très gothiques, très sexuels, où ils jouent sur le thème de l'horreur et pas forcément sur la personne de la comtesse en tant que femme. Est-ce cet album, il provient aussi, j'allais dire, du contexte de MeToo et de toutes les réflexions qu'on a sur les violences qu'on fait aux femmes, j'imagine.
Je peux pas être décorrélé de mon époque, c'est-à-dire que je suis forcément traversée par tout ça. Et je pense que ce qui m'a fait réagir surtout, finalement, c'est la légende qu'on a construite a posteriori. C'est cette espèce de personnage hyper fantasmé, hyper sexualisé. En fait, ça dit quoi de déjà il y a ça. Qu'est-ce que ça dit de cette vision de la femme? Mais bon, on voit aussi à quel moment. Il y a une sorte de vrai plaisir à y revenir. Les gens se délectent un peu aussi de cet imaginaire et de cette cruauté, de cet aspect femme fatale, quoi. Il y a une espèce de curiosité morbide ou plaisir morbide, quoi, à parler, à mettre en scène cette légende. Et en fait, moi, ma réflexion, c'était plutôt de me dire, bah, en fait, c'est fou parce que on peut avoir vécu sa vie à un moment donné et puis, 200 ans, 300 ans, 500 ans plus tard, en fait, l'histoire aura pu être complètement réécrite et déformée. Et en fait, on aura pu laisser la possibilité à des gens de s'approprier totalement son récit, sa vie et sa façon de vivre, quoi. Et c'était surtout avant tout une réflexion sur l'histoire et sur comment on écrit une histoire, quoi. Après, évidemment, les questionnements autour du féminisme et autour de la façon dont on s'est réapproprié cette figure, elles sont très présentes.
Donc, c'est aussi une histoire dessinée, donc il faut qu'on parle du dessin. Alors, il y a un choix qui est radical, c'est un mot un peu fort, mais qui sous-tend tout l'album. C'est un album qui est bicolore ou tricolore, donc dessin noir et blanc avec des aplats, avec, comment dire, c'est une couleur ocre.
Oui.
Pourquoi vous avez choisi ce style de dessin qui est finalement peu coloré, mais qui met vraiment l'accent sur les personnages?
Alors, c'est des, donc les planches, elles sont travaillées au crayon papier. Et les couleurs, la couleur est numérique. Ensuite, effectivement, c'est un Pantone, c'est une couleur ocre qui vient juste avec certaines nuances, en fait, dessiner les plans, premier plan, arrière-plan, et puis certains éléments dans les images. En fait, en travaillant au crayon à papier, moi, ce qui m'intéressait, c'était en termes purement de plaisir de dessin. C'est parce que j'avais envie de travailler sur la nuance. J'avais envie de travailler sur. Mais ça peut faire écho aussi à la thématique, en fait, le fait d'amener de la nuance dans un récit. Mais donc, voilà, j'avais envie de travailler sur des nuances de gris, des choses comme ça, en faisant écho aussi à certaines gravures, certains dessins que j'avais pu voir en me documentant sur l'époque, des choses que j'ai pu prélever sur des textiles, des motifs de vêtements, etc. Et en fait, quand j'ai commencé à réfléchir au travail de mise en couleur, je me suis fait la réflexion que le dessin était assez dense en l'état, et donc que ce qui m'intéressait surtout, c'était de venir dessiner des plans et clarifier l'image, la rendre plus claire et pas forcément la gonfler avec des couleurs supplémentaires, quoi. Je me suis dit qu'il y avait déjà assez d'éléments dans le dessin comme ça.
Ça marche vraiment très très bien.
Et... Merci.
Voilà, quand on lit votre album, on est vraiment happé en plus par les visages qui sont, je trouve, très très beaux, très expressifs. Ça marche parfaitement bien, l'équilibre est respecté. Ce que je veux dire aussi aux auditeurs, auditrices, parce qu'ils n'ont pas l'album sous les yeux, c'est que vous dessinez des grandes planches, des grandes pages.
Oui.
Bon, absolument génial. Là, j'en ai une sous les yeux où des marionnettistes sont penchés au-dessus du bain de la comtesse, qui est probablement un bain de sang avec une grosse araignée par-dessus. Et il y a une quinzaine de grandes planches comme ça dans l'album qui donnent un peu des respirations. Ça fait partie aussi du charme de la lecture, de tomber sur ces planches et de pouvoir s'y plonger, parce qu'il y a plein de détails, il y a des petits monstres, il y a des animaux fantastiques, il y a des crânes, enfin il y a tout un imaginaire qui soutient là aussi la narration.
Mais c'est vrai que c'était assez... moi, j'ai vraiment adoré travailler graphiquement sur ces éléments-là, parce que je me suis fait vraiment plaisir, mais j'avais de la chance parce que les ressources iconographiques, elles sont incroyables, en fait. Il y a, à ces époques-là, 15e, 16e, il y a des choses magnifiques à découvrir en termes de dessin, de gravure, etc. C'est vraiment très, très riche. Et après, ces pages-là, il y a des pages avec beaucoup d'ornements, avec des motifs aussi, ou des pages où le dessin change un petit peu. Ouais. Et c'était histoire de faire écho aussi en termes de narration au fait qu'à un moment il y avait un récit dans le récit, donc on venait raconter soit l'histoire d'un personnage, soit une légende, soit des choses comme ça. Donc ça, je voulais le marquer en termes de dessin pour que ce soit un peu différent. Et par ailleurs, moi j'aime bien aussi quand je fais de l'illustration ou des dessins pour moi, pour des journaux, des choses comme ça, j'aime bien travailler sur des métaphores dessinées, intégrer des éléments qui sont peut-être pas forcément hyper identifiables tout de suite, mais en fait on peut les relier à des choses où ça peut faire écho à d'autres trucs. Donc j'ai essayé d'intégrer plein de petites métaphores comme ça dans le récit, mais à la fois moi je sais que ça me faisait plaisir, et en même temps on peut découdre les trucs et faire des liens, je pense.
Oui, mais on sent que vous avez pris beaucoup de plaisir à dessiner, et d'abord, si ça se sent, ça fait partie du plaisir de la lecture, pour les lecteurs de votre album, mais il y a aussi plein de surprises. Là, je suis sur une double page qui est une double page, qui raconte un peu l'enfance de son fils avec le père du... le mari de la comtesse, avec plein d'animaux, plein de petites enluminures, avec des... Enfin, c'est vraiment un ravissement, parce qu'on se plonge dedans, et plus on y revient, plus on découvre des détails qu'on n'avait pas encore vus.
Ah bah merci beaucoup. Puis les animaux, c'était aussi... Je savais pas si c'était clair, c'est peut-être le truc où je me suis dit, mince et tout, est-ce que c'est assez clair, mais c'est vrai que les familles, elles avaient des blasons, et sur chaque blason, il y a un animal, il y a des signes, etc. Et elle avait... Le blason de sa famille, c'était un dragon. Le blason de son mari, c'est une espèce de cygne, de canard, de poule d'eau, quoi. Et le blason de Turzo, donc le palatin, qui est en conflit ouvert avec elle et qui va mener à son arrestation, c'est un lion. Et je voulais essayer de mettre ça en scène aussi en faisant que les animaux soient présents dans le récit un peu tout du long, quoi. Mais merci en tout cas, c'est un plaisir.
Non, c'est un plaisir. Anne-Périne, on arrive au terme de notre interview. Voilà, on a passé un temps qui est passé très très vite, je dois dire. On aurait pu parler encore longtemps de votre album, mais le plus important, c'est quand même de le lire. Voilà, c'est une magnifique bande dessinée. Je rappelle le titre, Bathory, la comtesse maudite. Vous êtes Anne-Périne Coët, c'est publié par les éditions Stinkies. Le prix, c'est 22 €. Et il y a 150 pages de magnifiques dessins et d'une histoire riche et enrichissante. Je vous remercie beaucoup, Anne-Périne, de ce moment passé ensemble et je vous dis à très
bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.
Au revoir.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Waouh ! Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.